C'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le repli de Christophe Castaner face à la colère des policiers, sa volonté de suspendre ceux qui feraient l'objet de soupçons de racisme, une maladresse, son interdiction de la technique de l'étranglement, finalement, elle continuera à être autorisée dans certains cas. Détail dans un instant. Le ministre est-il sur la sellette ? Analyse politique de Yael Gauze à suivre. Y aura-t-il des assesseurs pour le deuxième tour des municipales ? Ceux du premier tour en pleine épidémie en garde un mauvais souvenir. Les mairies ont du mal à faire le plein pour le 28 juin. La potion amère de Ryanair baisse des salaires après la crise du Covid. Certains pilotes payés au SMIC vont même devoir rendre une partie de leur rémunération des derniers mois. La démondialisation et la souveraineté économique, ça ce sont les credos de votre invité à 8h20.
Il fut le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de François Hollande. Il est aujourd'hui entrepreneur. Arnaud Montebourg au micro d'Inter dans 20 minutes. Vous pourrez dialoguer avec lui. Le standard 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, l'urgence psychiatrique. Consultation en hausse avec le déconfinement. Une décharge assignée pour participer au meeting de Donald Trump. Ses partisans devront s'engager à ne pas le poursuivre s'ils attrapent le Covid. Et puis un été dans un refuge de haute montagne avec des cloisons dans les dortoirs.
France Inter.
Sans doute n'avait-il pas besoin d'une fronde de la police en ce moment. Christophe Castaner, face à ses rassemblements en uniforme et en civil hier, menottes jetées à terre et appel à la démission. Sentiment d'injustice après les annonces du ministre cette semaine contre le racisme et les violences dans la foulée des manifestations pour Adama Traoré et George Floyd. Message reçu par Christophe Castaner. Il fait manifestement marche arrière, Emmanuel Leclerc.
Christophe Castaner a d'abord vu les patrons des syndicats de gardiens de la paix hier après-midi, avant d'enchaîner aujourd'hui avec les officiers et les commissaires. Le ministre, selon plusieurs participants, a exprimé clairement des regrets sur le choix des mots utilisés lundi dernier et les menaces de suspension systématique en cas de soupçon avéré de racisme. Hier soir, dans son entourage, on précisait qu'il faudra finalement des faits avérés pour justifier d'une suspension après enquête ou comme à l'île Saint-Denis le mois dernier avec ce policier. Ici, parlant d'un bico repêché quelques minutes plus tôt dans la Seine et filmé par un riverain. Christophe Castaner s'est engagé à finalement maintenir la prise d'étranglement, la clé de cou, si elle permet juste de faire tomber le suspect pour lui passer ensuite les menottes. Pas une clé de cou où l'on serre de plus en plus fort au risque d'étouffer et de couper la circulation sanguine. Des engagements qu'il rendra publics à l'issue des entretiens qui s'achèveront en fin d'après-midi et par écrit à l'attention de tous les syndicats de policiers.
Voilà qui ressemble donc à un recul en bonnet du forme. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Florence.
Situation inconfortable pour le ministre de l'Intérieur alors qu'un remaniement se profile.
C'est l'histoire d'un ministre à qui l'Élysée met une pression de dingue ce week-end pour répondre aux répliques nationales du séisme George Floyd. Un ministre prié d'accélérer sur son plan déontologie de la police. Mi-janvier, lors des mobilisations contre la réforme des retraites, Christophe Castaner demandait à ses troupes, après la vidéo, souvenez-vous, d'un croche-patte à une manifestante, de ne plus faire de croche-pied à l'éthique. Mais dans la précipitation, c'est lui qui se prend les pieds dans le tapis. Substituer le taser à la clé d'étranglement sans avoir suffisamment consulté en amont. Maladresse de l'expression, soupçon avéré de racisme. Et derrière, une administration qui rame. Hier et mercredi, le préfet de police de Paris et le DGPN écrivent aux forces de l'ordre « Je veux vous dire qu'il ne faut pas douter », signé Didier Lallement. « Je partage avec vous le sentiment d'une profonde injustice », signé Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Malaise qui se double aujourd'hui d'un front politique. La droite veut faire corps avec la police. Marine Le Pen sera dans une heure au commissariat de Villeneuve-la-Garenne. Commentaire d'un proche du ministre. Casta est toujours l'un des hommes de confiance du président, mais pour écrire une nouvelle page après la série noire Benalla, gilets jaunes, retraite et Covid, il est sans doute trop marqué pour pouvoir rester à son poste.
Et si remaniement il y a, merci Yael Gauze, ce sera sans doute après le deuxième tour des municipales le 28 juin, qui pose apparemment quelques problèmes d'organisation. Pas assez d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote pour l'instant. Entre la date tardive et les mauvais souvenirs du premier tour, Élodie Forêt, certaines villes tentent de racoler sur les réseaux sociaux.
50 assesseurs, 10 présidents, voilà ce qui manque aujourd'hui à la ville de Tours. Pour trouver des volontaires, la mairie met donc les moyens, campagne sur les réseaux.
Devenir président ou assesseur d'un bureau de vote, c'est l'assurance d'un dimanche réussi.
Et installation bientôt d'un bureau témoin, mais à Tours comme ailleurs, pas simple de rassurer. Charlotte, assesseur à Paris au premier tour, ne se réengagera pas, malgré le protocole sanitaire mis en place.
Ce qu'il nous disait au début aussi, il nous disait oui, ça serait sécurisé, il va avoir des règles d'hygiène et tout, et au final ça dépend beaucoup des bureaux de vote, et moi j'ai pas envie de tomber dans le bureau de vote où les gens ils sont peut-être en mode oui c'est bon c'est passé, il n'y a pas de deuxième vague, enfin voilà, j'ai pas confiance.
Manque de confiance, départ en vacances, à Rouen aussi la mairie reçoit de nombreuses réponses négatives et se prépare à faire sans les bénévoles habituels. Pauline Fouquet, chef de service des élections.
On va identifier des agents municipaux qui pourraient être réquisitionnés pour tenir éventuellement les bureaux de vote si on manque d'assesseurs le jour du scrutin. Et puis le jour J, les membres de bureau de vote présents, eux, solliciteront les électeurs qui se présentent au bureau de vote à 8h pour tenir les bureaux de vote si on manque de volontaires.
Rouen, qui avait déjà manqué d'assesseurs aux dernières législatives, avec parfois un peu de retard, tous les bureaux avaient fini par ouvrir.
Y aura-t-il des municipales en Guyane ? Le président de la collectivité vient d'écrire à Édouard Philippe pour lui demander de reporter le second tour à cause de la généralisation de l'épidémie de Covid sur le territoire. Le point sur l'épidémie sera justement fait à l'Élysée aujourd'hui, réunion du Conseil scientifique et du Conseil de défense, avec de nouveaux assouplissements des règles, possiblement à la clé. Beaucoup les attendent dans les écoles ou la restauration. De quoi nourrir en tout cas l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche soir à 20h.
Il est 8h06, des baisses de salaire en échange du maintien de l'emploi.
La recette est douloureuse, mais à la mode, présentée aux salariés du journal L'Équipe, par exemple, et déjà validée dans l'aérien chez Air Caraïbes ou dans cette filiale polonaise de Ryanair, qui demande même à ses pilotes, Grégoire Lecalo, de rembourser une partie de leur salaire.
Ce sont des pilotes qui travaillent pour Buzz qui sont concernés. Cette filiale polonaise de Ryanair fait voler une quarantaine d'avions, à la fois sur des lignes régulières de la compagnie à bas coût et en charter. Et ce n'était pas la première mauvaise nouvelle à sortir de la crise du Covid. Olivier Rigazio, du syndicat de pilotes SNPL France Alpa.
Ils ont dit aux pilotes, on va vous baisser les conditions de 10 à 20%. Ceux qui n'ont pas accepté ont été virés et ne volent plus. Ça, c'était le premier étage de la fusée. Et le deuxième étage, ils ont dit aux pilotes restants, il y avait une grille tarifaire pour vous payer en fonction de votre expérience. On va baisser ces grilles tarifaires et ça va être rétroactif. Ça va être rétroactif depuis la crise du Covid. Donc, ils ont trop perçu. Ça sera retenu sur leur prochain salaire ou sur... éventuellement rembourser si le delta est trop important. Oui.
Environ une centaine de pilotes sur les 4 à 500 qui volent sur Buzz subissent ce coup de rabot avec des rémunérations habituelles proches du SMIC qui ont donc été baissées pendant la crise. À cela s'ajoute leur statut précaire. Ils sont auto-entrepreneurs tout comme les hôtesses et stewards. Ce modèle permet à Ryanair de pousser les prix toujours plus bas. Pour autant, le groupe irlandais a souffert de la paralysie du transport aérien. Il va supprimer 3000 emplois chez les navigants, baisser les salaires de 20% et diviser par deux son programme de vol cet été.
Et comment payer son loyer ou rembourser son emprunt immobilier quand on a perdu son boulot ou une partie de son salaire? Pour aider les locataires et les propriétaires en difficulté, le gouvernement annonce une aide de 150 euros pendant 2 mois. Elle s'adresse aux chômeurs et aux travailleurs qui gagnent au moins d'un SMIC et demi en temps normal et qui ont vu leurs revenus baisser d'au moins 15% avec la crise du Covid. Autre coup de pouce ce matin, 150 euros pour l'installation d'un thermostat intelligent dans nos logements pour faire des économies de chauffage l'hiver prochain et baisser la consommation d'électricité alors que la maintenance des centrales nucléaires a été retardée par le confinement. Certains redoutaient une deuxième vague psychiatrique après celle du Covid. On n'en est pas là, mais tout de même, la santé mentale a été mise à rude épreuve pendant le confinement et ça commence à se voir dans les hôpitaux, Véronique Julia.
2 semaines que ça dure. Dans son service des urgences de l'hôpital de Saint-Denis, Mathias Vargon voit défiler chaque jour plus d'une dizaine de patients psychiatriques très lourds. Avant la crise, des patients comme ceux-là, il n'en accueillait quotidiennement que 2 ou 3. Ils arrivent aujourd'hui plus nombreux et plus gravement atteints. Et ils encombrent les urgences, car les lits en aval restent difficiles à trouver.
C'est des patients qui sont psychotiques, qui entendent des voix, qui ont des hallucinations, le plus souvent très agités. Pendant le confinement, ces patients ont perdu leur cadre de vie, ils ne prennent plus leurs médicaments, et leur maladie psychiatrique, qui est une maladie maladie lourde, à décompenser complètement.
À Marseille, le psychiatre Raoul Belzo fait le constat aussi de cet afflux de patients, pas seulement psychotiques d'ailleurs, et qui tient d'après lui à plusieurs choses. Il y a le rattrapage de toutes les consultations annulées pendant la crise, des aggravations liées au manque de suivi. Il y a des troubles anxieux ou des stress post-traumatiques liés au Covid, des personnes qui ont connu des deuils difficiles par exemple, avec l'impossibilité d'approcher leurs défunts, des pathologies aussi qui se sont révélées pendant le confinement.
Des patients qui étaient vulnérables et qui, par exemple, du fait d'un changement important dans l'organisation des rythmes sociaux, ont eu des pertes de repères qui ont en quelque sorte facilité le déclenchement de la pathologie. On a eu quelques cas comme ça qui ont débuté le trouble bipolaire pendant la période de confinement.
Et comme beaucoup de ses confrères, Raoul Belzo prévient que ce n'est pas fini car la crise sociale et économique qui s'annonce aura forcément aussi des répercussions de santé mentale.
Véronique Julia, en Amérique latine, la pandémie prend toujours plus d'ampleur. 1,5 million de cas positifs avérés et plus de 40 000 morts au Brésil, pays le plus touché. L'OMS s'inquiète aussi pour l'Afrique, où le nombre de cas a doublé en moins de 3 semaines, 200 000 contaminations recensées. Aux États-Unis, certains États voient grimper le chiffre des hospitalisations et le nombre de morts quotidiens du Covid ne baisse pas, encore 1 millier hier, ce qui n'empêchera pas Donald Trump de reprendre ses meetings de la campagne présidentielle. Le premier aura lieu dans une semaine à Tulsa, en Oklahoma. La date et le lieu de la réunion interrogent Grégory Phillips, ainsi que le fait même de réunir autant de gens en pleine épidémie.
Quand sur le site officiel de Donald Trump, vous réservez un ticket pour le meeting de Tulsa vendredi prochain, il faut d'abord cliquer sur un bouton rouge et s'engager à ne poursuivre ni le président américain, ni la salle qui peut accueillir 19 000 personnes, ni les organisateurs du meeting. Si vous êtes contaminé par le Covid-19, il est écrit, vous assumerez tous les risques. Il n'est pas précisé si le port du masque sera recommandé ou obligatoire. En Oklahoma, le virus est toujours présent, 146 nouveaux cas recensés hier. D'autres meetings sont prévus en Floride, en Arizona et en Caroline du Nord où l'épidémie est encore galopante. Le choix de Tulsa et la date, le 19 juin, suscite aussi la polémique. Ce jour-là, aux États-Unis, on commémore l'abolition de l'esclavage en 1865. Or, Tulsa a été le lieu de l'un des pires massacres d'Afro-Américains de l'histoire du pays. En 1921, quand une foule de Blancs avait tué entre 200 et 300 Noirs, un lynchage collectif largement oublié des livres d'histoire, la sénatrice démocrate de Californie, Kamala Harris, qui soutient le rival Joe Biden, y voit un message adressé par Donald Trump aux suprémacistes Blancs. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et face aux incertitudes sanitaires et économiques, Wall Street a perdu presque 6% hier soir, la chute la plus lourde depuis 3 mois, précédée par les bourses européennes, Paris, Francfort et Londres en baisse de 4 à 5%. Comment faire travailler des centaines de personnes dispersées aux quatre coins de l'Europe et qui ne parlent pas la même langue, autrement dit, comment ça se passe au Parlement européen à Bruxelles, le siège de la Commission, suite et fin de notre série ce matin. Bruxelles où une minorité de députés sont de retour. Les autres, ils sont 700, travaillent toujours à distance. Reportage signé Angélique Boin.
La salle est quasi vide. Le président espagnol de la Commission des libertés ouvre la séance de chez lui, derrière son écran. Plusieurs heures de négociations vont suivre ainsi qu'un vote électronique. On s'est adapté très vite, se félicite la néerlandaise Sophie Inveldt, même si, dit-elle, cela a des limites.
Quand on est en salle de réunion, normalement, avec ses collègues, on peut chercher à capter le regard de quelqu'un pour se mettre d'accord sur une intervention, par exemple, ou brièvement, discrètement, faire un échange de points de vue, c'est un peu comme une arène, hein. Et ça manque.
4 sessions se sont tenues avec tous les eurodéputés, 89 textes ont été votés. On a même trouvé un logiciel pour la traduction simultanée, se réjouit Delphine Collard, porte-parole adjointe du Parlement.
On peut connecter 300 personnes en même temps dans une réunion. On a l'interprétation en 8 langues qui n'existent nulle part, les Nations Unies ne le font pas, ils travaillent en anglais, les autres institutions ne le font pas. Ça s'est fait effectivement assez rapidement.
Échange à distance également avec les élus pour les lobbyistes, experts ou ONG. Louis-Marie Durand du cabinet Euralia.
On a été un peu pris de court, mais on a quand même pu travailler. On n'a pas la même qualité, mais ça permet quand même d'échanger sur l'essentiel, d'autant plus que les enjeux étaient majeurs avec la crise liée au Covid.
Les élus espèrent retrouver leur bureau et l'hémicycle de Strasbourg à la rentrée. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Reportage en images sur franceinter.fr. Après les très fortes pluies et les inondations en Corse hier à Ajaccio, où 150 personnes ont dû être évacuées, 9 départements sont aujourd'hui placés en vigilance orange. L'Ardèche, le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, le Cantal, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Gard, la Haute-Loire et la Lozère. Enfin, que diriez-vous, de vacances là-haut, sur la montagne, cet été, dans un refuge isolé, certes, mais dans les refuges, on dort dans des dortoirs, à plusieurs, pas très Covid, évidemment, il a donc fallu, là aussi, s'organiser. Jérôme Val a assisté hier à l'installation du gardien du refuge de Lanterne, dans la réserve naturelle de Sixte, en Haute-Savoie.
C'est le début d'une transhumance par les airs. Le refuge n'est accessible que par un petit chemin, alors pour le ravitailler, un hélicoptère est indispensable.
Là, il y a 2400 kilos au minimum de marchandises. Il y a quand même beaucoup de matériel. Donc on a quand même du bois pour faire des travaux, entre autres liés au Covid.
Bruno Peset est depuis 16 ans le gardien du refuge Lanterne, appelé aussi refuge Alfred Wills.
Voilà, ça y est, on est arrivé, c'est cool.
Il reste tout l'été là-haut pour gérer les deux bâtiments plantés sur un plateau cerné de falaises imposantes et de montagnes.
Donc là, c'est la fruitière, c'est là où ils faisaient le fromage avant.
Le refuge, c'est le symbole de la collectivité. Tout le monde dort et mange dans la même pièce. Mais avec le virus, Bruno Peset a imaginé un nouvel aménagement.
Eh bien ici, par exemple, les gens qui vont dormir à droite, où j'ai 6 lits, les gens qui vont dormir à gauche, j'ai 6 lits, mais qui veut dire 6 lits, ça veut dire une seule famille. Je peux pas mettre 2 personnes, plus 2 personnes, plus 2 personnes.
Le refuge possède 55 couchages. Cet été, il ne pourra accueillir que 33 personnes en même temps pour respecter l'énorme 40% de capacité en moins. Malgré ces contraintes, le refuge ne va pas désemplir en juillet et en août.
On a un super taux de remplissage qui est prévu pour juillet et août. Ouais. Et ça a permis, par exemple, d'embaucher la plupart des salariés, des saisonniers.
Ces travaux vont durer 2 jours, mais même des planches de bois et la distanciation n'empêcheront pas de profiter d'un paysage féerique.
Et du ronflement de ses voisins de cloison, évidemment.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Stéphanie, le ciel est agité.
Oui, alors ça s'est calmé en Corse, mais de fortes pluies orageuses sont attendues entre le Languedoc et le Sud-Auvergne, avec des cumuls abondants, notamment sur les Cévennes. Météo France a effectivement émis une vigilance orange pluie inondation pour 9 départements, puis Dôme, Haute-Loire, Cantal, Ardèche, Lozère, Aveyron, Gard, ainsi que Finistère et Côte d'Armor. L'Aveyron et la Lozère sont aussi concernés par une vigilance orange pour les orages, et le Gard pour orages et crues. Ces pluies s'accompagneront de rafales pouvant atteindre les 90 km/h. Au fil des heures, ces pluies orageuses vont s'étendre du massif central à la Bourgogne, parfois accompagné de grêle. Sur le Nord-Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire, après une matinée pluvieuse, les éclaircies feront leur retour, tandis qu'entre le sud Finistère, la Loire-Atlantique et l'Aquitaine, les éclaircies du matin seront plus timides cet après-midi. Le soleil, quant à lui, sera assez généreux du Poitou au Limousin, sur la Corse et en Alsace, avant de céder un peu plus de ciel aux nuages ce soir.
Mercure, très magnanime avec l'Alsace, fait grimper les valeurs entre 22 et 30.
C'est ça, 24 degrés à Orbey, 27 à Colmar et Mulhouse, 29 degrés à Strasbourg, partout ailleurs. Il se contente de frôler les normales de saison, 17 à 23 degrés en général, 23 à 26 sur le Roussillon et des frontières allemandes au Rhône. Il fera 17 à Cherbourg, 21 à Paris, 23 à Cahors et Verdun.
Merci Stéphanie Fromentin et rendez-vous après le journal de 9h.